Donc le diocèse de Rodez, c'est une belle terre, la terre du Rouergue, qui existe depuis de longues années, qui est une grande terre, hein, c'est le 5e département français en territoire, hein, et il peut paraître peut-être même plus grand que d'autres, parce que c'est un territoire où il n'y a pas beaucoup d'autoroutes, il n'y a pas beaucoup de grands axes, hein, et donc dès qu'on se déplace, il faut du temps, hein, il va de Thérondel, qui est au plein nord, jusqu'au sud, à la limite de l'Hérault, et pour aller du nord au sud, ou du sud au nord, comme vous voulez, il faut 4 heures. J'ai fait l'expérience un jour, j'ai été sur un col qui était vraiment à la limite de l'Hérault dans le sud, j'ai pris mon GPS et j'ai inscrit Thérondel, et il m'a dit 3h59. Ouais. Donc voilà, mais comme on se promène sur une carte postale, tout le bonheur est pour nous, et c'est vraiment une belle terre donc on ne se lasse jamais de découvrir et de parcourir. C'est une terre qui est très enracinée dans l'histoire. Quand je suis arrivé là, je suis originaire du diocèse de Clermont. Donc c'est l'Auvergne, c'est pas très très loin, c'est même limitrophe à certains endroits. Et j'ai été très étonné en arrivant en Aveyron de découvrir la variété des régions, si on peut dire ainsi. Parce qu'entre le Carledès, l'Aubrac, le sud Aveyron, le Millavois ou le Villefranchois, c'est pas tout à fait. Et je me suis posé assez vite, mais à quel moment s'est fait l'unité de cette terre-là, quoi. Et j'ai commencé à lire un livre sur l'histoire du Rouergue que j'ai pas achevé totalement, mais que j'ai commencé et qui m'a au moins permis de comprendre que à l'époque des Gaulois, voire même de façon plus ancienne, cette terre était constituée comme telle, hein, et donc il y a une identité ancienne et une identité très forte, hein. C'est un pays qui actuellement est habité par 280 000 habitants. L'objectif principal serait d'atteindre les 300 000, mais une population qui a atteint à une époque les 400 000 habitants, hein, à la fin, je pense, au milieu ou la fin du 19e siècle, hein, la période qui était un habitat rural avec des familles nombreuses et qui était donc très important. Et l'objectif aujourd'hui, l'objectif avoué, un peu volontariste, sans savoir s'il n'est pas si facile que ça à atteindre, ça serait d'atteindre la barre des 300 000 habitants, hein, avec ce que ça peut vouloir dire aussi comme ce que ça peut appeler ou favoriser comme dynamisme. C'est une terre où l'évangile est présent, où l'évangile a été annoncé, où il s'est progressivement planté et a fleuri depuis longtemps, hein. Le patron du diocèse ou le fondateur du diocèse, même si on a peu d'éléments historiques sur sa personne, c'est Saint Amand, qu'on date de la moitié du 5e siècle ou du 6e, merci, c'est pour nous rappeler qu'il faut arrêter les téléphones. Saint Amand, donc je vous disais, 450-500, hein, ce qui veut dire que on est dans les premières phases d'évangélisation des campagnes à partir de la pénétration des équipes missionnaires par le Rhône et par la montée jusqu'à Lyon, et puis après qui se sont sans doute étendues de côté et d'autre, hein. Puis je vous ai mis aussi en photo une représentation de Saint Fleuret, parce qu'on est au début du mois de juillet. Saint Fleuret est fêté chaque année le premier dimanche de juillet à Estin, qui est sur le bord du Lot, et je l'ai noté là. Alors on ne sait pas bien qui c'est Saint Fleuret dans l'histoire ou la tradition. Il est présenté comme un évêque d'Auvergne, mais l'Auvergne allait jusqu'au bord du Lot à cette époque-là, donc il était en tout cas pas forcément évêque dans ce secteur-là. On dit qu'il est mort à Estin en revenant de Rome, où il avait été rendre compte de la manière dont, avec d'autres évêques en Gaule, il luttait contre l'arianisme, hein, cette hérésie qui débattait sur la vérité de la divinité du Christ. Et Saint Fleuret, l'an dernier, il y a des équipes de scientifiques de Toulouse qui se sont intéressées à ses restes, à ses reliques, qui ont demandé si elles pouvaient les examiner. Il y a une datation carbone 14 qui a été faite, et on s'est trouvé devant l'intégralité d'un corps conservé, d'un squelette conservé en intégralité, ce qui est rarissime, hein. Il me disait qu'en France il y a moins de 10 cas de cet ordre là, hein. Et c'est un squelette qui a été daté avec précision à plus ou moins 21 ans de 450, oui. Donc l'enracinement croyant et l'enracinement chrétien de cette terre remonte à plus de 15 siècles, ce qui est quand même pas rien. C'est aussi un territoire où la vitalité chrétienne s'est développée de manière étonnante, hein. Alors je ne vais pas tout vous détailler travailler, mais je reste moi estomaqué de comprendre et de voir que 6 abbayes cisterciennes, hein, implantées par Saint Bernard, se sont implantées en 50 ans, dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Hein, vous les avez, qui doivent apparaître en photo, certaines que vous connaissez peut-être, hein, Bonnecombe, qui est vide actuellement et qui est tout proche de Rodez, Bonneval, qui est occupée par une communauté de religieuses cisterciennes, trappistines, qui font un excellent chocolat, Logdieu, qui est maintenant une propriété privée, mais qui est entretenue, qui est un parc magnifique, qui est visitable à côté de Villefranche-de-Rouergue. Beaulieu-en-Rouergue, qui par les avatars de l'histoire n'est plus en Aveyron, mais fait partie du Lot-et-Garonne, et qui est aussi une très belle abbaye, avec en particulier une église abbatiale de toute beauté, hein, qui appartient maintenant au conseil départemental du département. Sylvanès, vous connaissez par sa réputation culturelle et cultuelle, et André Gouze. Et puis Noninque, qui est aussi dans le sud de l'Aveyron, et qui est actuellement habité par des chartreusines, c'est-à-dire des femmes qui vivent de la tradition cartusienne, hein, de Saint-Bruno, voilà, qui sont très très peu en France. Je crois qu'il y a deux communautés en France et pas très nombreuses dans le monde non plus. Mais... voilà, vous voyez, 12e siècle, on a déjà une espèce d'implantation monastique qui est significatif aussi de la présence chrétienne qui s'enracine, qui à la fois aide au développement de l'agriculture et au développement de la terre et à la mise en valeur du pays, mais puis aussi qui plante l'évangile et qui invite à le vivre. Ensuite, cette terre, elle sera marquée par les blessures de l'histoire que beaucoup de nos terres ont connues et qui vous apprendront rien ici. Hein, au XIVe siècle, la guerre de Cent Ans, la peste noire. En 1360, donc au milieu du XIVe siècle, le traité de Brétigny fait que le Rouergue revient aux Anglais. Hein, je ne sais pas s'ils sont restés très longtemps après, mais en tout cas, ils sont venus jusque-là. Et puis, je note aussi, mais vous voyez, en faisant des grands pans de l'histoire, qu'au moment de la Révolution, 500 prêtres avéronnais ont été déportés sur les pontons de Rochefort-sur-Mer. Voilà. Donc un enracinement de l'Église qui est très très étonnant dans sa richesse et dans sa densité. Alors j'en viens, je fais des grands sauts, j'en arrive au XXe siècle, et avec des évolutions inverses, si on peut dire, qui vont être très rapides. Hein. Alors pour les situer, je vous parlerai du cardinal Bourret, fin du XIXe siècle, qui a eu un épiscopat de 25 années, il me semble, je ne vais pas vérifier, mais de cet ordre-là. Très important en tout cas dans le déploiement. Il a fait revenir un certain nombre de communautés religieuses, il a redéveloppé des lieux, il a fait construire des églises, il a réimplanté des prêtres et des communautés dans pas mal de lieux du diocèse. À cette époque-là, donc je vous parle de 1890, il y avait donc 400 000 habitants en Aveyron, il y avait 1100 prêtres dans le diocèse, ce qui veut dire qu'il y avait un prêtre pour 364 habitants. Hein. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Mais le rapport est quand même assez impressionnant. À la même période, la même année, le grand séminaire accueillait 300 séminaristes, et cette année-là, l'évêque qu'il était a ordonné 83 prêtres, 83 ordinations. Je vous parle de 1890, vous voyez, c'est simplement à 128 ans de chez nous. Voilà. C'est une terre aussi qui a été à cette époque-là, et on peut le comprendre, pour cause d'une certaine manière très missionnaire. C'est-à-dire beaucoup de prêtres, voire de religieux, sont partis en mission. Hein, le nombre de prêtres d'Aveyronnais qui sont rentrés dans les sociétés des missions étrangères de Paris est impressionnant. Ou chez les lazaristes ou dans d'autres communautés religieuses. Hein, et on pourrait dire de la même manière du côté de la vie religieuse féminine. C'est aussi une terre qui a donné la figure de Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, hein, le fondateur de Notre-Dame de Vie. Hein, donc un prêtre du diocèse qui a été ordonné pour le diocèse de Rodez en 1900, pas revérifier la date, après la guerre de 14, en tout cas entre 1920 ou 30, vous voyez, dans ces périodes-là, puis qui est rentré chez les Carmes, qui a des responsabilités importantes dans l'ordre des Carmes, et qui peu à peu a travaillé à développer et à favoriser, à rendre possible la pratique de la spiritualité carmélitaine pour des laïcs, hein, ce qui a donné l'Institut Notre-Dame de Vie et les différentes branches, en particulier la branche féminine, qui est assez développée et qui vit de ce charisme-là et de cette spiritualité-là aujourd'hui. Et Marie-Joseph de l'Enfant Jésus, si je vous l'évoque, c'est qu'il a été béatifié l'année dernière, donc à Vénasque, mais son parcours spirituel et religieux a été reconnu comme un parcours pouvant faire signe à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Un autre indicateur, ça j'étais à la fin du 19e siècle, début cinquième, notre indicateur 1960 en France, c'est la période où a été fondé le Service National des Vocations. Et le Service National des Vocations a été confié à un prêtre qui s'appelait Raymond Isard, qui était du diocèse de Montpellier, je crois, mais qui avait des racines du côté de Millau, donc en Aveyron, et que j'ai eu l'occasion et la joie de rencontrer quelques fois, qui est décédé l'année dernière, peut-être même cette année, il n'y a pas très longtemps. Et il me disait donc qu'en 1960, donc vous voyez, un petit peu plus de 50 ans de distance pour nous, en Aveyron, il y avait un prêtre pour 22 habitants. C'était ce qui donnait à peu près 600 prêtres pour une population de 280 000 habitants. Et à la même époque, et à partir des mêmes analyses, en Lozère, le diocèse de Mende, qui est le plus petit diocèse de France, qui a 75 ou 80 000 habitants, il y avait un prêtre pour 42 habitants. Voilà, donc ça veut dire que, vous voyez, on était encore dans des périodes très riches. Et 600 prêtres en Aveyron, j'en connais beaucoup, moi, qui sont encore vivants aujourd'hui, qui ont été ordonnés dans ces périodes-là ou un petit peu auparavant, qui ont commencé leur ministère comme secrétaire de mairie ou comme professeur de silence, disent-ils avec délicatesse, c'est-à-dire surveillant dans les écoles privées. Voilà. Et puis, alors quand je vous dis tout ça, vous voyez, donc c'est pour vous dire déjà qu'en 50 ans, les choses avaient rapidement bougé. Puis ça s'est accéléré très fortement à partir des années 70, parce que on a commencé à voir, non pas commencer la crise des vocations, mais en mesurer les conséquences. Mon prédécesseur, le monseigneur Bellino Guirard, qui a été évêque de 1991 à 2011, donc pendant 20 ans, a enterré 300 prêtres et il en a ordonné 10. Voilà. Et moi qui suis à Rodez depuis 7 ans, j'ai enterré pratiquement 90 prêtres déjà et j'en ai ordonné 2 qui ne sont pas aveyronnais d'origine. Voilà. Et quand je vous dis ça, alors c'est simplement pour baliser le terrain, je ne veux pas focaliser la vie de l'Église sur le nombre de prêtres, vous allez me comprendre. Mais je pense qu'on pourrait dire la même chose de la vie religieuse, de la vie religieuse qui a été très développée. Actuellement, il y a encore plus de, mais il y a pas très loin de 500 religieux dans le diocèse, ce qui est exceptionnel pour un diocèse de cette taille-là, vous voyez, un diocèse rural, dont beaucoup sont âgés. En gros, dites-vous qu'une moitié de religieuses, c'est principalement des religieuses, sont soignées par l'autre moitié des religieuses. Mais quand même, ça vous dit toute la richesse de la présence religieuse. Et c'est vrai aussi de la présence de religieuses contemplatives. Quand je suis arrivé il y a 7 ans, il y avait 7 communautés contemplatives dans le diocèse. Depuis le Carmel de Rodez, dans lequel je me suis installé, mais il n'y a pas d'indienne cause à effet, et le Carmel de Villefranche ont fermé l'un et l'autre, et les carmélites sont allés rejoindre d'autres carmels. Mais il reste encore 2 communautés de Clarisse, il reste donc la communauté des cisterciennes de Bonneval, des Trappistines, il reste la chartreuse dont je vous parlais à Noninck, et il reste aussi une petite communauté de bénédictines adoratrices du Saint-Sacrement à Notre-Dame d'Orient, à côté de Saint-Cernin, dans le sud de l'Aveyron, le sud-ouest. Voilà. On pourrait aussi avoir le même regard au niveau de la vie chrétienne, et de la vie des baptisés, de la vie des laïcs. C'est un diocèse qui a été très marqué et de manière puissante par la présence des mouvements d'action catholique. Je pense en particulier aux mouvements d'action catholique rurale ou ruraux, la GAC, la JACF. Monseigneur Segui, qui est un prêtre du diocèse de Rodez, qui est actuellement retiré dans le diocèse, qui approche des 90 ans, a été à une époque, avant d'être évêque, chargé de la JAC et de la JACF, et il me disait qu'il avait 3000 garçons et 3000 filles dans ces mouvements-là. Voilà. Bon, je ne vous en dis pas plus, mais ça vous révèle un peu la puissance, la solidité que manifestait cette Église. Et du même coup aussi, son pouvoir ou sa place ou son implantation. Si vous connaissez Rodez, vous ne pouvez pas ne pas connaître sa cathédrale et ne pas connaître son palais épiscopal que j'ai quitté il y a 2 ans, mais qui demeure comme un bâtiment impressionnant, construit au XVIIe siècle, juste à côté de la cathédrale. Voilà. Et c'est évident qu'aujourd'hui, le diocèse est possesseur, propriétaire d'un patrimoine important, qui est un peu démesuré par rapport aux besoins qui sont les nôtres aujourd'hui, mais qui manifeste très fortement la place et la présence de l'Église. Tout cela, je crois, a donné un fond de mentalité très riche et d'une certaine manière très étonnant. De mentalité religieuse, mais de mentalité aveyronnaise, si vous voulez, ou de mentalité rouergate. C'est un tempérament que je trouve très fort, très solide, avec un attachement marqué au terroir et à la culture locale. Même quand on va travailler ailleurs, on revient en Aveyron. Les étudiants qui viennent faire des études à Toulouse ou à Montpellier reviennent très fréquemment chez eux et ils y sont sont très attachés. Et j'étais très frappé un jour, même je l'ai vu, je crois, plusieurs fois, de voir des jeunes se balader avec un t-shirt qui était floqué, on dit comme ça, floqué d'une phrase, je n'ai pas choisi de naître à Véronée, mais j'ai eu de la chance. Voilà, donc ça vous dit un peu cette espèce de grande fierté d'être de cette ère et d'y vivre ou de pouvoir y revenir fréquemment, quoi. Et de grande fierté, y compris dans les plus jeunes générations. Ça donne aussi une grande richesse de caractère, je trouve aussi une vraie fidélité à un certain nombre de valeurs, en particulier la valeur du travail. On sait ce que c'est que de travailler en Aveyron, et c'est une valeur qui continue à se transmettre. La valeur aussi, le sens de la parole et de la parole donnée, le sens de l'engagement, le sens de la fidélité, la place de la famille. Voilà, autant d'éléments qui ont nourri et qui continuent de nourrir un esprit. Et un des aspects qui me frappe, peut-être par contraste par rapport à d'autres diocèses, c'est que la présence de l'Église sur cette terre et sa solidité, sa présence importante, de mon point de vue, n'a pas généré un anticléricalisme marqué. Il y a des points de vue différents, il y a parfois des postures différentes, mais je sens pas, et je crois pas être super protégé par rapport à ça, je sens pas un anticléricalisme marqué dans ce pays, sans doute beaucoup moins que vous ne pouvez peut-être le percevoir à Toulouse. Et voilà, et tout ça n'est pas très loin. J'avais un prêtre à Véronée lui aussi, mais religieux, qui n'est plus dans le diocèse actuellement, mais qui me disait, Monseigneur, en Aveyron, il y a de la braise partout, et il suffit de souffler dessus. Oui. Et de dire, voyez, ce qui a façonné ces personnes-là, qui est peut-être plus vivant de la même manière aujourd'hui, c'est présent, et il faudrait parfois peu de monde ou peu d'acteurs pour être présent et réveiller un certain nombre de capacités. Alors ça a beaucoup évolué, et c'est en train de continuer à évoluer d'une manière impressionnante. Je dirais, en gros, depuis les années 50, mettons, dit depuis 50 à 70 ans. Pourquoi, de mon point de vue, ça me paraît lié principalement à l'évolution de l'agriculture. On est sorti d'une agriculture familiale sur des propriétés relativement modestes en superficie, avec des familles nombreuses. Les familles de 8, 10, 12 enfants étaient très fréquentes, qui ne pouvaient pas toutes continuer l'activité de la terre, qui étaient des familles chrétiennes, et pour qui, parmi les enfants, ça avait très rapidement sens de penser à rentrer dans une congrégation religieuse ou de penser à rentrer au séminaire. Donc, vous voyez, on avait une structure sociale rurale qui, naturellement, était fournisseuse des acteurs de la vie ecclésiale de l'époque. Cette réalité rurale s'est très vite transformée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une amélioration des techniques, une amélioration de la manière de travailler la terre, il y a eu une mécanisation. On a vu arriver tous les tracteurs et autres outils qui permettent de travailler autrement, avec moins de pénibilité et plus de rentabilité. Il y a eu aussi une spécialisation. Quand on voit, par exemple, cette année au Salon de l'Agriculture, on a célébré la race au braque. Et bien, cette race au braque qui revit aujourd'hui et dont tout le monde est très fier, c'est une race qui était en voie de disparition, mais qui a pu être retravaillée, resélectionnée, et qui donc produit aujourd'hui une qualité tout à fait étonnante pour ceux qui l'élèvent. Donc voilà, il y a eu toute une montée en puissance de la qualité du travail de l'agriculture, qui est devenue une technique, plus qu'une vie ou une culture particulière, et qui a aussi beaucoup modifié la vie familiale. Les familles sont devenues moins nombreuses, les enfants n'ont pas pensé exclusivement à l'agriculture, et aujourd'hui, vous connaissez sans doute plein de jeunes de ces lieux-là, mais comme d'autres, qui font des études, qui envisagent d'autres perspectives pour leur propre vie, etc. Ce qui pose aussi maintenant la question aussi de la succession d'un certain nombre de propriétés, d'exploitation d'une génération à l'autre, ce qui est un vrai souci pour la présence sur la terre et pour les élus qui se posent la question aussi d'un minimum de population. Les maires dans la région de Cassagne-Bégonnès s'arrachent un peu les cheveux là-dessus. Je voyais le maire d'Arvieux récemment, je parle à quelqu'un qui est intéressé par le secteur, et qui disait que dans les 5 années qui viennent, il va y avoir 40 agriculteurs qui vont cesser leur activité et pour lesquels il n'y a pas de successeur en vue immédiatement. Donc tout ça, c'est une vraie question, et j'ajoute à ça que dans cette terre, comme dans beaucoup d'autres lieux de notre pays, les repères pour vivre ensemble se modifient, et on n'est plus sur un territoire, même s'il reste enclavé par bien des aspects, et on n'est plus sur un territoire tourné sur lui-même, mais toutes les influences de la vie sociale d'aujourd'hui marquent l'Aveyron comme beaucoup d'autres. Donc vous m'avez compris à travers ça que ce monde, un monde est en train de disparaître, un monde qui s'efface, très vite et je dirais même très brutalement, hein, en laissant des questions très vives. Des questions très vives, je fais que les énumérer. La question de la transmission entre les générations, et vous savez sans doute ce que ça veut dire. Comment ça se fait que ce qui nous a fait vivre ne fasse pas vivre de la même manière nos enfants ou nos petits-enfants, et quelle est notre responsabilité, ou comment prendre cela, avec le poids de souffrance aussi que ça peut représenter, et puis le poids de mystère. Vous voyez, l'évêque que je suis se demande quand même souvent qu'est-ce qui fait qu'une église qui a été si riche et qui a donné un beau visage d'église soit une église qui paraît incroyablement fragilisée aujourd'hui. Et puis, comme une question tout à fait légitime, hein, qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas de successeurs, qu'est-ce qui fait que nous soyons entraînés dans une telle pauvreté, et qu'est-ce que cette pauvreté vient inviter à creuser en nous. Voilà, un peu pour l'arrière-fond. Alors j'en viens à mon deuxième point. Ce diocèse, donc, je l'ai découvert et j'en ai reçu la charge comme pasteur, comme évêque, en 2011, au mois de juin 2011, donc il y a eu 7 ans à peine. Hein. Je venais de Clermont-Ferrand, je le connaissais pratiquement pas, si ce n'est pour y être passé rapidement. J'étais pas étranger à la réalité rurale, mais j'avais pas eu un ministère particulièrement investi dans la réalité rurale. Et donc, assez rapidement, je me suis engagé dans des visites pastorales qui m'ont occupé pendant 2 ans. Le diocèse, à l'époque, était déjà réparti dans 36 paroisses. Il y avait eu un redécoupage des paroisses qui avait été fait au début des années 2000. Et donc, j'ai pris le temps d'aller visiter ces 36 paroisses à raison de 4 ou 5 jours dans chacune d'elles, ce qui m'a pris du temps, mais ce que je regrette absolument pas, parce que ça a été un vrai temps de rencontre, un vrai temps de découverte des communautés chrétiennes, mais pas seulement des communautés chrétiennes, de découverte aussi des réalités humaines, des réalités artisanales, des réalités sociales, de rencontres avec des élus, de rencontres avec des agriculteurs, bien évidemment, dans la grande variété de ceux et de celles qui font vivre cette terre et qui lui donnent un visage. Et ça m'a permis aussi de mesurer que la question que je viens de vous développer, enfin, ou cette évolution de la réalité que je viens de vous évoquer, était très présente dans la tête des personnes. Et très souvent, pendant les rencontres que je pouvais avoir avec les personnes dans ces visites, je leur disais, ce que vous me racontez, c'est un peu comme des gens qui me disent, regardez la photo qu'il y a sur notre cheminée. Vous voyez, la photo de la cheminée, c'était la photo du mariage des parents ou la photo de la communion solennelle des parents ou la nôtre propre. Quoi, hein. Et on se disait, voilà. Et en gros, on a tous en tête cette photo qui est sur la cheminée et on voudrait qu'aujourd'hui, la réalité corresponde à cette photo. Or, ce n'est plus le cas. Ça s'est encore transformé de manière rapide depuis et ça nous laisse un petit peu démunis parce qu'on a du mal à le comprendre et on a du mal à s'expliquer. Quoi. Ça m'a permis aussi de mesurer l'investissement de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de personnes dans cette vie ecclésiale. Je pense aux équipes d'animation, je pense aux conseils pastoraux, aux personnes investies dans la catéchèse, aux personnes accompagnant les funérailles. Et puis ça m'a permis aussi de comprendre une chose très importante, très très importante je crois, c'est que les questions que rencontre mon église, je vais en parler comme ça, ces questions d'évolution et de difficulté d'existence, c'est aussi des questions que rencontre de la même manière la réalité, la société civile. Hein. C'est des questions que rencontrent des élus, c'est des questions que rencontrent des enseignants, c'est des questions que rencontre la vie associative, c'est des questions qu'on rencontre dans le monde de la santé. Vous voyez, hein. Où est-ce qu'il faut implanter des lieux où on soit sûr de pouvoir être soigné avec un minimum de conditions sécurisantes, hein, en termes de donc la présence de la santé, la présence de la culture, la présence des lieux de vie, un minimum de réseaux qui permettent cela. Hein. Donc vous voyez, c'est pas rassurant, mais je trouve que c'est intéressant de se dire que la question de l'Église, c'est aussi beaucoup la question de la société et des lieux qui la font vivre et de la manière de maintenir un tissu social dans un territoire rural qui, par certains endroits, a tendance à très fortement se distendre. Voilà, alors ça, je l'ai glané pendant 2 ans et puis au terme de ces 2 ans, j'écris un petit texte, un document qui était une lettre pastorale pour que les hommes aient la vie. Pour que les hommes aient la vie, c'est une citation de l'évangile de Jean au chapitre 10, et c'est une parole de Jésus. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Et dans cette lettre pastorale, si vous vous êtes intéressé, vous en trouverez quelques exemplaires à disposition. J'ai simplement essayé de reprendre un peu le diagnostic que je fais hein, que je viens de vous préciser. Et puis, j'ai essayé de tirer quelques fils ou déjà de proposer un peu une posture pour notre vie chrétienne. Et puis, je l'ai partagé, cette lettre pastorale, et j'ai invité tous les chrétiens qui le souhaitaient à la lire. Et il y a eu une année de lecture avec des équipes qui se sont constituées pour lire ce document-là. Hein. Et donc, se l'approprier, réagir, dire qu'il manquait des choses, ou dire qu'on était d'accord, ou dire qu'on n'était pas d'accord. Mais voyez, donc il y a eu tout un travail de lecture, de réaction, de retour, et il y a même eu un deuxième document qui a été un document de restitution du travail qui avait été fait à partir de là. Puis comme j'ai senti que ça créait quelque chose un peu d'un dialogue entre les communautés chrétiennes et l'évêque, et donc le diocèse, oui, un dialogue à ce niveau-là, je me suis dit, ben, battons le fer tant qu'il est chaud. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de convoquer un synode diocésain. Hein, donc à partir de 2015, hein, donc 4 ans après mon arrivée, un synode qui était donc à ce moment-là une volonté beaucoup plus organisée, hein, de rentrer dans une réflexion solide. Donc on s'est engagé dans un synode qui a duré pendant 2 ans et qui nous a fait vivre quelque chose d'important. D'abord, il y a eu une première année qui a permis à 280 équipes, je crois, de se constituer et de travailler, ce qui représente à peu près 2000 personnes, hein, qui sont rentrées dans une réflexion et dans une analyse un peu de la réalité humaine et de la réalité ecclésiale qui était la nôtre. Et puis, ensuite, une deuxième année où on a constitué une assemblée synodale qui approchait les 200 personnes, prêtres, laïcs, religieux, diacres, etc., avec une grande majorité de laïcs parmi dans cette assemblée, et qui s'est retrouvée pendant 7 jours au total. On a vécu une journée de récollection pour essayer de comprendre, d'abord de nous découvrir, comprendre qui nous étions et ce que nous allions avoir à vivre ensemble. Et puis nous avons vécu 3 week-ends complets de travail, donc de 3 fois 2 jours, vous voyez, ça, sur une année complète, ça représentait 6 jours de travail. Et les propositions ou les actes, les engagements qui ont été votés pendant le synode ont été récoltés et mis en perspective dans ce deuxième document que je vous ai apporté, donc qui est un petit peu plus récent, qui date d'un an, de juin 2017, qui sont donc les actes du synode diocésain. J'ai repris à mon compte tous les textes qui avaient été votés par l'Assemblée synodale et je les présente simplement en m'attachant à les mettre en perspective dans ce document-là. Vous le trouverez aussi, si vous le souhaitiez, en complément de la lettre pastorale. Voilà. Alors à partir de là, j'en viens, mais il ne faut pas que j'aille trop vite, hein, parce que je suis en train de rattraper le temps que je n'avais pas perdu. Hein. Je voudrais essayer de rentrer un peu dans la réflexion que vous souhaitez entendre de ma part et de souligner un peu quelques déplacements que, me semble-t-il, notre Église et l'Église dont j'ai la charge en Aveyron me semble appelée à vivre aujourd'hui. Déplacements à vivre autour de la place des prêtres, autour de la responsabilité des baptisés et autour d'une manière de se situer ou de réfléchir à notre relation au monde. Hein. Alors je vais vous parler de ce que j'appellerais deux décentrements, hein, qui ne sont pas nouveaux, qui ne sont pas inédits, qui ne vont pas vous surprendre totalement, mais qui me paraissent importants et qui me paraissent à repérer et à travailler un peu dans ce sens-là. Hein. Le premier décentrement, je vois que déjà il vous fait bondir, c'est de dire le prêtre n'est plus au centre. Hein. C'est pas nouveau ça. Hein. Si vous lisez le Concile Vatican II, vous verrez qu'on vous parle d'abord d'une Église qui n'est pas hiérarchique, hein, qui n'est pas constituée d'évêques, puis de prêtres, puis de diacres, puis de etc. etc. Mais on vous parle d'abord d'une Église qui est peuple de Dieu. Et au sein de laquelle, pour que cette Église vive, existe un certain nombre de fonctions et de ministères, dont le ministère ordonné des diacres, des prêtres et de l'évêque. Oui. Donc ce décentrement, il est appelé de notre part et pour l'Église universelle depuis une bonne 50aine d'années, mais vous savez que ces déplacements-là viennent d'une certaine manière se confronter à une pratique et une habitude qui est très ancienne chez nous, hein, qui date au plus près du Concile de Trente, mais peut-être même encore précédent. précédemment, vous voyez, où l'église pour nous, c'est un clocher, un curé et des chrétiens autour de l'église et de son curé, vous voyez. Donc où effectivement le prêtre est vraiment au centre, hein, et c'est pas pour dire que c'était mauvais, mais ça a beaucoup façonné notre esprit, et je crois qu'aujourd'hui, si on continue à réfléchir en se disant l'église est au centre, le prêtre est au centre de notre église, et bien qu'on n'a plus qu'à trouver toutes les bonnes solutions pour aller chercher des prêtres partout où il y en a encore, pour créer une présence de prêtres un peu artificielle par rapport à l'église qui est la nôtre, hein. Donc comment vivre ce décentrement? Ben, c'est simplement prendre au sérieux ce que nous dit le Concile Vatican II, hein, et comprendre que le ministère du prêtre est au service de communautés de croyants où de plus en plus de baptisés prennent leur place, et ceci dans une diversité de rôles et de fonctions. Moi, je suis témoin, je vous l'avais déjà dit dans les visites pastorales que j'ai vécues, mais je suis témoin de multiples manières que aujourd'hui les communautés paroissiales ne vivent pas exclusivement grâce aux prêtres. Bien loin de là. J'ai par exemple fait l'expérience un peu douloureuse d'enterrer il y a 3 mois un prêtre de 75 ans qui était encore curé d'une paroisse, qui est mort brutalement, et où pendant il a fallu 3 mois et arriver à la fin de l'année pastorale pour que je trouve une solution de transition pour nommer un prêtre sur ce secteur-là, et où pendant 3 mois j'ai mesuré, je les ai visités pendant 2 jours là il n'y a pas très longtemps, j'ai mesuré toute la manière dont les chrétiens avaient porté le souci de leur vie ecclésiale. Et c'était organisé, c'était mobilisé pour qu'il continue à se passer des choses et que la vie ecclésiale continue. Sauf qu'au bout de 3 mois, sans un minimum de régulation qui n'avait pas été clarifié, on vérifiait aussi que, très rapidement, vous savez, il y a des gens qui surgissent et puis qui risquent de s'approprier un peu une responsabilité. Ce qui n'est pas anormal, mais ce qui veut dire que dans n'importe quel groupe, on a besoin qu'il y ait une régulation et qu'il y ait des responsabilités dont on sait qu'elles sont légitimement confiées à tel ou tel. Hein. Mais ça m'a aidé à remesurer ce que je sais de bien des façons, c'est que dans toutes les paroisses du diocèse, l'Église vit grâce aux chrétiens. Je ne dis pas qu'elle vit grâce aux chrétiens sans les prêtres, mais je dis qu'elle vit grâce aux baptisés qui prennent au sérieux leur baptême et qui prennent une place très active et très diversifiée dans la vie de leur communauté. Donc ça, c'est déjà un premier point très important et qui demande, contrepoint d'une certaine façon, vous voyez, de réfléchir à quelle est la particularité et quelle est l'originalité de la présence du prêtre. Si d'une certaine manière une communauté chrétienne peut vivre avec une moindre présence de prêtre, pourquoi le prêtre nous reste essentiel? Besoin de... Alors on peut répondre rapidement qu'on en a besoin pour la célébration des sacrements, on en a besoin pour le service de la communion et de la cohérence et de la cohésion de cette communauté. On a besoin pour le service de la parole, hein, c'est un peu les 3 grandes fonctions du ministère du prêtre, et pour se rappeler que ça c'est pas de notre initiative mais que ça vient de nôtre, hein, que le ministère ordonné justement nous signifie cela, mais on a besoin surtout de réfléchir à cette saine articulation, hein, que l'on vit d'une manière un peu pratique aujourd'hui sous la pression des événements et des situations pour une grande partie, et qui en même temps doit nous demander de le réfléchir, de le penser et de l'intégrer d'une manière plus intéressante. Alors dans ce sens-là, je continue un petit peu mon exploration du diocèse, vous voyez, actuellement dans le diocèse il y a 100 de prêtres vivants, il y a un peu moins de 40 prêtres qui n'ont pas 75 ans, donc vous savez que 75 ans c'est la période d'activité chez nous, hein. Les prêtres sont en forme jusqu'à 75 ans, contrairement à la majorité de la population, vous voyez, hein, on a de la chance. Un peu moins de 40 prêtres qui ont en dessous de 75 ans, et parmi ces 40 prêtres qui ont moins de 75 ans, il y a déjà dans mon diocèse 14 prêtres qui sont étrangers, qui viennent d'ailleurs, comme on dit, hein, qui sont donc, alors pas tous Fidei Donum, mais la grande majorité d'entre eux sont Fidei Donum, j'imagine que vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qui viennent pour un temps donné au service d'une église particulière envoyée par leur évêque, en sachant donc que les contrats que je signe actuellement avec des évêques, c'est une présence de 7 ans, hein, une première année de découverte, et puis si ça se passe bien, une mission qui est confiée pendant 3 ans, renouvelable une fois. Voilà, mais ça veut dire qu'ils viennent, et ça veut dire qu'ils vont repartir. Et 14 sur 38, vous voyez que on est déjà au-delà du tiers, hein, ce qui modifie profondément la physionomie du presbytérium dans ses prêtres actifs. attentif. Et ça modifie des équilibres, ça modifie des réflexes. Les prêtres qu'il y a chez nous, un certain nombre, il y a 7 prêtres qui viennent de l'Inde, du sud de l'Inde, hein, du Tamil Nadu. Alors on n'a pas d'illusion avec eux sur la difficulté culturelle, puisqu'il faut d'abord qu'ils apprennent la langue, hein, ce qui leur demande un gros effort. Hein. Il faut au moins une bonne année, si ce n'est deux, pour qu'ils soient à l'aise dans l'expression. Il faut aussi qu'ils comprennent la culture, qu'il y a une culture différente. La présence du prêtre en Inde dans un contexte religieux, même si l'Église catholique n'est pas majoritaire, est tout à fait différente de la présence d'un prêtre dans nos églises en France aujourd'hui. Il y a aussi des prêtres qui viennent de Côte d'Ivoire, eux parlent le français, mais je pense aussi que la distance culturelle reste très importante et elle reste marquée, significative. Voilà. Et puis, il y a aussi un prêtre polonais, mais qui est là depuis une quinzaine d'années, qui est plus impliqué, mais qui est resté aussi polonais avec la tradition de sa culture ecclésiale polonaise qui n'est pas tout à fait la même. Voilà, donc ce que je veux dire derrière ça, c'est que des prêtres qui passent et qui viennent servir cette église pendant un certain temps ne sont plus ceux qui vont assurer la pérennité de nos communautés. Vous savez, auparavant, et j'ai encore parmi les prêtres plus âgés, des prêtres qui ont été 20 ans, 25 ans ou 30 ans curés d'une paroisse. Donc c'est vraiment eux qui assuraient la stabilité. Vous savez, ils connaissaient les grands-parents, les parents, les enfants, etc. C'était le repère. Ça, c'est terminé ou ça va être totalement terminé d'ici très peu de temps. Donc la stabilité des communautés, qu'est-ce qui la permet? Qu'est-ce qui va la rendre possible? Alors on pourrait penser au diacre, mais je ne crois pas personnellement que le ministère du diacre soit appelé à être un ministère de conduite des communautés chrétiennes, ou sinon je pense qu'on modifierait l'intuition du diaconat telle qu'elle a été réengagée par le Concile Vatican II. On peut penser à la vie religieuse, mais là aussi, hein, s'il y a certains religieux ou religieuses qui sont des acteurs pastoraux actifs, ils n'ont pas pour vocation d'être d'abord des animateurs des communautés. Ils nous disent quelque chose par leur engagement religieux, mais ils ne disent pas d'abord par l'animation des communautés. Et puis, on sait bien qu'il existe partout des animateurs pastoraux qui sont des membres d'équipes d'animation paroissiale ou des laïcs en mission ecclésiale, mais qui ne sont pas numériquement assez nombreux pour conduire ces communautés et qui, eux aussi, souvent, sont sur des pôles de mission particuliers. Quoi. Voilà. Donc, une des questions à chercher, une question difficile, mais c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait voir aujourd'hui surgir, ou est-ce qu'on pourrait appeler progressivement à surgir au service des communautés chrétiennes des figures de laïcs, qui soient des figures de laïcs à qui on puisse pouvoir penser, confier la responsabilité de l'animation d'une communauté. Alors ça supposerait de se préciser un certain nombre de critères, ça supposerait de préciser un certain nombre de conditions, hein, de savoir si on peut parler à ce titre-là de ministère ou pas de ministère, vous voyez, enfin, on est sur des questions un petit peu limites, sur lesquelles on commence à chercher avec quelques évêques, voilà. Mais vous voyez qu'on est un peu limité. Deuxième étape, c'est ça? on est un petit peu limité, vous voyez, on ne peut pas appeler artificiellement des prêtres à animer ces communautés, on ne peut pas non plus les abandonner sans prêtres, sinon on ne serait plus des communautés catholiques, et en même temps il y a besoin d'une animation de ces communautés. Voilà, ça c'est un peu le premier décentrement qui est à vivre, et ce qui veut dire que du côté des prêtres c'est un vrai passage aussi d'une présence qui était une présence davantage située de l'ordre de l'autorité et peut-être un peu du pouvoir, pour chercher à se situer dans une logique de service de ces communautés, mais que l'on ne va pas toujours animer en ligne directe. Oui. Le deuxième pôle, et le deuxième décentrement, c'est sortir de ce que le pape François évoque souvent, qui soit une église autoréférencée. Sortir de l'autoréférencement, hein, dans une compréhension de ce qu'est l'église. Alors je vais essayer d'aller vite, j'ai vraiment que 10 minutes. Qu'est-ce que je veux dire? Je m'explique rapidement. Je veux dire que il n'a jamais été dit que l'église devait être une chrétienté, même si on a sans doute, dans la génération que nous représentons majoritairement, été façonné par ça. Hein, une église chrétienté où l'autorité est structurée par la hiérarchie de l'église. Hein. Alors ça a peut-être été un peu dit par exemple dans le concile de Trente, mais en tout cas ça n'a pas été dit par le concile Vatican II, et le concile Vatican II au contraire nous parle d'une église non pas comme d'un système hiérarchique de chrétienté, mais la grande définition de l'église au concile Vatican II, c'est de nous dire que l'église est un sacrement, c'est-à-dire qu'elle est un signe, en quelque sorte le signe est le moyen de quoi ? De l'union avec Dieu et de l'unité du genre humain. Ça, c'est à retenir et à apprendre par cœur. L'Église est en quelque sorte comme un sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. C'est une définition qu'on trouve au tout début de la constitution Gaudium et Spes, non, Lumen Gentium, pardon, la constitution sur l'Église, la constitution dogmatique sur l'Église au Concile Vatican II, Lumen Gentium, hein, le Christ est la lumière des nations. Donc il nous parle de l'Église comme d'un sacrement, c'est-à-dire qui n'existe pas en soi et pour soi, mais qui existe comme un signe posé au sein de l'humanité. Signe de quoi ? Que l'humanité ne peut pas vivre toute seule sans référence à une verticalité, être signe de l'union avec Dieu, que l'humanité n'existe pleinement et véritablement et justement que si elle se situe dans une relation à plus grand qu'elle, au Dieu qui nous est révélé en Jésus-Christ, et qu'elle ne peut pas vivre pleinement si elle ne travaille pas à reconnaître et à donner à voir l'unité du genre humain au cœur même de sa grande diversité. L'Église est signe et moyen de l'union avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Première chose qui peut nous aider à ce décentrement, ça veut dire que si on est une Église qui se découvre comme cela, on ne peut pas se penser pour nous-mêmes, on est obligé de se passer en relation avec les hommes et avec le monde. Première chose. Deuxième élément que le Concile aussi nous aide beaucoup à réfléchir, c'est de se dire qu'on ne peut pas penser, si on ne pense pas à l'Église toute seule, il faut la penser en relation avec le monde et avec le royaume. Alors vous savez que dans l'Évangile en particulier, Jésus nous parle souvent du royaume de Dieu, il annonce le royaume de Dieu. Et on a un peu dans nos têtes à essayer de travailler, on y reviendra dans les questions si vous le souhaitez tout à l'heure, mais on a besoin de travailler cette relation entre l'Église, le monde et le royaume. L'Église n'est pas le monde et elle n'a pas vocation à faire que tout le monde rentre dans l'Église. Sinon justement, on serait dans une logique de chrétienté. L'Église n'est pas le royaume, elle n'est pas un espace complètement idéal où enfin le royaume de Dieu serait déjà présent sur terre. La preuve, il suffit d'avoir des informations. Et on a suffisamment d'exemples aujourd'hui et de situations concrètes qui nous rappellent que l'Église, c'est pas le royaume. Pas besoin de développer, j'imagine. L'Église n'est pas donc ni le monde ni le royaume. Ça, si elle était le royaume, ça se saurait. Mais l'Église est invitée à être au cœur du monde, ce signe du royaume de Dieu. Ce signe du royaume de Dieu qui se déploie, qui travaille, qui se développe, qui grandit, non pas exclusivement au sein de l'Église, mais qui se déploie, qui travaille et qui grandit au cœur du monde. Au cœur de notre humanité. D'accord ? Et nous avons à être cette Église-là qui doit être ce signe-là. Attention, donc vous voyez, je vous dis bien que je ne dis pas qu'elle doit être un royaume idéal au milieu d'un monde qui serait dangereux, qui serait perverti, qui serait abîmé. Je dis, et c'est plutôt le Concile qui nous dit, qu'elle doit être signe au milieu des hommes, signe pour l'humanité, que le royaume de Dieu est en train de travailler cette humanité. Voilà. Deuxième décentrement, que me semble-t-il, nous avions bien commencé à opérer depuis le Concile Vatican II. Que peut-être aujourd'hui, à cause d'un certain nombre de questionnements, voire de crispations, on a peut-être un petit peu plus de mal, parfois, à continuer à opérer. On y reviendra, si vous voulez, dans la réflexion et dans l'échange avec vous, mais je vous dis qu'il y a un certain nombre d'endroits où on sent qu'un peu que notre Église risque de... comment dire, de se replier ou de se crisper ou de se préoccuper d'elle-même et d'avoir du mal à oublier qu'elle est vraiment à être en relation avec l'humanité et au service de cette humanité-là. Voilà. Alors, dans cette perspective, j'avance. Deux choses que je veux vous inviter à comprendre. C'est d'abord que l'Église se comprend en s'appuyant sur deux points fondamentaux. D'abord, qu'il ne dépend pas d'elle que Dieu se fasse connaître à l'humanité. Je vous ai mis là, il a plu à Dieu de se révéler lui-même. Ça, je vous cite le texte sur la révélation Dei Verbum, qui est un autre texte fondamental du Concile. Il a plu à Dieu de se révéler lui-même aux hommes et d'entrer en conversation avec eux. Oui. Donc l'Église nous dit dans sa foi qu'il ne dépend pas de nous, il ne dépend pas des chrétiens, que Dieu se fasse connaître aux hommes. C'est le problème de Dieu qui trouve les moyens pour s'adresser à l'humanité. Ça ne veut pas dire que l'Église n'a pas d'intérêt, mais qu'elle arrête de croire, ou qu'elle ne se sente pas obligée de croire ou de penser, qu'il dépend d'elle et de ses moyens pour que Dieu se révèle à l'humanité. si on a du temps, on pourrait aller regarder plein de textes dans l'Écriture, en particulier dans le Nouveau Testament et les Actes des Apôtres. Hein. Si vous voulez aller fouiller ça de manière intéressante, lisez le chapitre 10 et 11 des Actes et la rencontre de Pierre avec Corneille, le centurion Corneille, hein, à Césarée, qui est une des illustrations étonnantes de ce mystère de l'Esprit qui habite un païen, alors même que Pierre se demande s'il a osé aller le rencontrer ou pas. Hein. Donc, l'Église n'est pas un maillon obligé de la révélation du mystère de Dieu à l'homme. Hein, et on en a peut-être tous fait l'expérience, du moins je l'espère, quand on rencontre des hommes et des femmes qui sont habités profondément par la recherche ou par le mystère de Dieu, alors qu'ils ne connaissent pas forcément Jésus-Christ, ou qu'ils n'ont pas eu la possibilité ou les moyens jusqu'à présent d'adhérer à la personne de Jésus-Christ. Hein, ce qui est toujours quelque chose d'étonnant, de mystérieux, et en même temps de profondément heureux et libérant. Hein. Et le deuxième Paul, ça c'était pour vous dire qu'il a plu à Dieu de se révéler, hein, ce qu'un théologien comme Karl Rahner par exemple appelle l'autorévélation de Dieu. Hein. Dieu n'a pas besoin de nous pour se révéler à l'homme et pour parler à tout homme. Hein. Et le deuxième Paul que je veux insister là-dessus, c'est que du coup, si Dieu se révèle à tout homme, et si Dieu dialogue avec tout homme, eh bien l'Église que nous sommes doit s'attacher à vivre dans une situation et dans une posture qui la situe en relation et en dialogue avec l'humanité. La question du dialogue est, je crois, une des questions fondamentales que nous avons à nous poser aujourd'hui, une question qui est souvent difficile, une question qui provoque des réactions, parfois des crispations, mais une question qui n'est pas au choix. Si l'Église est appelée à dialoguer avec les hommes, c'est parce que Dieu lui-même dialogue avec l'humanité. Et comment voulez-vous qu'on témoigne d'un Dieu qui dialogue si nous-mêmes on n'est pas dans une position de dialogue avec les hommes? Voilà. Je vais passer sur ce que je pensais vous dire, mais peut-être que vous savez d'une certaine manière, autour de la triple manière de vivre notre mission comme prêtre, comme prophète et roi. Et je vais essayer de... Je vais plutôt aller vers les différents points finaux, là, et puis je m'arrêterai là, de vous dire comment nous essayons de le décliner ou de le déployer à partir des actes du synode. Hein ? Je vais vous présenter là en finale un certain nombre d'éléments que vous retrouverez, si vous en avez la curiosité, dans les actes du synode, et vous dire comment il me semble, hein, et c'est le travail que j'ai réfléchi là pour venir vous rejoindre cet après-midi, m'a invité un petit peu à penser un peu ça et à le mettre en cohérence, mais il me semble qu'un certain nombre d'éléments que nous avons votés ensemble en église diocésaine dans le synode que nous avons célébré nous amène un peu à chercher cette attitude d'une église en relation avec l'humanité. Hein. Alors j'arrive aux points à repérer ou les transformations à confirmer dans notre manière de faire Église. Voilà, je vois que vous m'avez rattrapé. Le premier que nous avons retenu, c'est... Alors je les classe un tout petit peu là pour vous les présenter dans une dynamique. Mais le premier que je vous présenterai, c'est d'inscrire la diaconie comme une dimension fondamentale de la vie de notre Église. La diaconie, c'est inscrire une attitude qui soit une attitude de service des hommes et de service de l'humanité. Alors, l'Église développe des domaines qui sont des domaines de service. Hein. Le Secours catholique est au-dessus de chez vous, hein, cet après-midi, il est là, au-dessus. Le CCFD, la Conférence Saint-Vincent-Paul, on a tous dans toutes nos églises des organismes où se déploie le service de l'humanité, le service des personnes. Mais je crois qu'il est très important qu'on se demande de quelle manière notre Église, dans sa globalité, se met dans une position de service des hommes. Et qu'est-ce que ça veut dire de prétendre service à un peuple au milieu duquel nous vivons et dont nous sommes? Qu'est-ce que ça appelle de notre part comme déplacement, comme transformation? Le deuxième point qui lui est très lié, c'est de soutenir une attention à la vie des personnes, aux situations et aux questions que traverse notre humanité. Voyez, moi, ça m'intéresserait pas beaucoup d'être le pasteur d'une église qui ne se préoccupe que d'elle-même, de sa liturgie, de son rassemblement, de la manière d'être bien ensemble. Mais ça m'importe beaucoup que les chrétiens avec qui je fais église soient une église qui signifie sa préoccupation à la vie des personnes. Hein, j'essaie, par exemple, de me préoccuper du devenir de l'activité rurale et de l'activité du monde agricole dans mon diocèse, parce que c'est une question qui fait débat, qui est qui est pas simple, qui est conflictuel entre beaucoup, et je suis pas spécialiste et je serai jamais spécialiste de ces questions-là, mais par contre il m'importe de manifester que je me préoccupe de ce chemin-là. Bon, j'essaie d'être attentif aux questions de société, aux questions d'évolution de l'entreprise dans un certain nombre de secteurs où le travail est aussi fragilisé, bon, etc. Et on pourrait le regarder sur la question culturelle ou sur la question des évolutions de société aussi. Voilà. Troisièmement, une église qui sache marcher avec les personnes. Et on a beaucoup réfléchi et on commence à essayer de développer ce qu'on appelle dans nos communautés chrétiennes la pédagogie catéchuménale, c'est-à-dire cette découverte que finalement le chemin que l'église fait aujourd'hui avec des catéchumènes, depuis disons le concile, où le catéchuménat des adultes se développe avec beaucoup de force, eh bien on a là comme quelque chose d'assez emblématique d'une attitude et d'une posture que nous sommes invités à avoir avec des parents qui demandent le baptême pour leur enfant, avec des jeunes adultes qui demandent qu'on les accompagne vers leur mariage, avec des familles qui demandent la catéchèse pour leur enfant, etc. Et où il ne suffit pas de répondre de manière stéréotypée à une demande qui nous est faite, mais où il s'agit d'être capable d'accueillir, d'entendre la demande, de marcher avec, et de découvrir que pour chaque demande, ce sera peut-être un chemin différent qu'il faudra prendre. Voilà. On y reviendra si vous le souhaitez. De jouer le jeu de la synodalité. Jouer le jeu de la synodalité. Alors le pape François, pendant la deuxième session du synode sur la famille, en a profité pour célébrer les 50 ans de l'instauration du synode des évêques qui a été voulu par le pape Paul VI, 50 ans auparavant, pendant la période du concile. Et ce qui fait que tous les deux ou trois ans, un certain nombre d'évêques se retrouvent en synode à Rome sur une thématique particulière. Il y a eu les deux synodes sur la famille, il va y avoir l'année prochaine le synode sur les jeunes qui va suivre. Et la synodalité, j'ai essayé d'inviter mon diocèse à la vivre pendant 2 ans. Et une des grandes choses que j'aurais dit qu'ils ont retenu, parce qu'ils le redisent de temps en temps, c'est que quand on a clôturé le synode, je leur ai dit, en promulguant les actes, le synode se termine, mais pas la synodalité. Et donc il nous appartient d'essayer de faire vivre dans la structure même de notre vie ecclésiale des tas de lieux qui favorisent la synodalité. Un conseil pastoral diocésain, un conseil presbytéral, au niveau diocésain, mais aussi au niveau local et au niveau particulier. Donc, j'en ai plus que pour 3 ou 4 minutes, après je suis condamné à me taire. Donc favoriser la synodalité et d'une certaine manière rentrer dans cette question-là, quoi. Dans notre manière de faire Église, de quelle manière nous laissons la parole autant que possible à une majorité de personnes pour prendre en compte ce que l'Esprit dit aux uns et aux autres, et en nous attachant à discerner qu'à travers ça, c'est pas simplement le point de vue de chacun, mais que c'est bien le point de vue de l'Esprit que nous attachons à laisser déployer. Favoriser aussi, point suivant, une vie fraternelle des communautés. Alors là, on cherche de différentes façons. Par exemple, on est en train d'essayer de proposer l'existence de fraternités de proximité. De se dire aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, il y a le rendez-vous dominical qui reste un repère, qu'on aille à la messe tous les dimanches ou qu'on y aille assez régulièrement. Et puis après, chacun est un peu laissé à son propre choix. Alors il y a des gens qui vont faire de la catéchèse, il y a des gens qui vont faire de l'accueil, il y a des gens qui vont rien faire, etc. Vous voyez, mais pour beaucoup de personnes, et peut-être pour les générations plus jeunes, on n'a plus du tout le bain ecclésial que vous avez sans doute, vous êtes nombreux à avoir connu, et qui disait que entre la messe du dimanche, il y avait aussi bien après la messe du dimanche, il y avait beaucoup d'autres lieux qui nourrissaient notre vie croyante. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Comment faire exister un minimum de relations avec d'autres qui nourrissent ce bain ecclésial? Et on se dit qu'essayer de faire exister des petites fraternités de proximité, en particulier en rural, et là où le tissu chrétien est très distendu, et où pour permettre aux gens de se connaître, de se rencontrer et vivre un minimum de temps de partage entre eux, bien, il y a peut-être quelque chose d'important à faire surgir dans ce sens-là. Une vie des fraternités de proximité où on partagerait autour de la parole, où on pourrait aussi vivre ensemble. On veut essayer de développer dans les paroisses ce qu'on appelle des maisons de vie, et qui seraient plus tout à fait des presbytères. Vous savez, quand on dit presbytère, on dit maison de monsieur le curé. Ici, si j'ai bien compris, on est dans une maison paroissiale, mais que vous avez mis à l'entrée maison de la fraternité. Ben, rien que ce panneau-là dit bien quelque chose de ce qui veut être vécu et proposé ici. Voilà. Ben, passer d'un presbytère à une maison de vie, ça peut nous faire vivre des tas de passages dans nos têtes et dans la réalité concrète des choses. Entrer, bien évidemment, dans une intelligence de la foi, parce qu'on se rend compte aussi qu'on a besoin d'entrer dans un horizon commun commun. Et donc on fait un gros effort de relance de propositions de formation qui va s'enclencher en début d'année là, par une proposition un peu unique et assez forte dans la manière dont elle s'inscrit actuellement. Et puis essayer d'inviter les prêtres aussi à vivre aussi de manière fraternelle. Je préciserai, parce que je n'ai pas le temps de le développer maintenant, mais si vous le souhaitiez, l'an dernier, dans chacun des 8 doyennés du diocèse, j'ai reconsidéré l'ensemble des nominations des prêtres pour ne plus avoir de prêtres qui soient nommés isolément, mais je les ai tous nommés par doyenné dans une unique équipe de prêtres, avec une responsabilité in solidum, comme nous dit le droit canon, et pour que cette équipe porte de manière solidaire, de manière commune, la charge des 3, 4 ou 5 paroisses du doyenné, quitte à ce que dans cette équipe de prêtres, tel ou tel prêtre ait la responsabilité particulière de telle ou telle paroisse. C'est une manière de ne pas isoler les prêtres dans leurs responsabilités, et c'est une manière aussi d'inviter les chrétiens à ne pas se dire « moi j'ai mon curé, je sais comment il s'appelle, je sais à qui j'ai référence et je suis tranquille parce que j'en ai encore un. » Voilà. Et puis enfin, et c'est le dernier point, mais on pourrait là aussi prolonger, c'est se dire à partir de là, continuer à être attentif et à regarder un peu qu'est-ce que cette réalité difficile. Comprenez bien que tout ça, c'est facile à raconter, mais c'est difficile à vivre. Ça nous déplace constamment. Quand on n'a pas beaucoup de mots pour en parler ou pour le comprendre, ou pour s'en expliquer, ça laisse très démuni. Donc comment faire que être suffisamment attentif pour que cette réalité difficile nous aide à repérer ce qui surgit. Moi, je suis persuadé que l'Esprit ne nous abandonne pas. Hein. L'Esprit, il aime cette Église. À la preuve, hein, je vous ai raconté comment il l'accompagne depuis 1500 ans. Hein. Donc, s'il l'aime depuis 1500 ans, il ne va pas l'abandonner aujourd'hui. Mais peut-être que dans les transformations qu'elle vit aujourd'hui, elle a quelque chose à comprendre. Et c'est tellement difficile à comprendre, il faut que nous changions beaucoup pour le comprendre. Voilà. Et donc, on ne va peut-être pas le comprendre du jour au lendemain. Mais il appartient que nous soyons suffisamment attentifs et disponibles pour repérer les nouveautés qui apparaissent et se demander ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles signifient et comment ça vaut la peine de les valider, de les souligner, de les formaliser peut-être, voyez, pour qu'à partir de là, nous avancions un petit peu plus. Voilà. Merci de votre écoute et de votre attention.